France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Gary Hoffman, violoncelliste, né à Vancouver le 24 juin 1956.
Hoffman, quel est votre rapport à la musique ancienne?
Déjà, je la joue. Je suis évidemment influencé par toute la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de ne pas l'être. En même temps, je suis persuadé dans toute cette musique et toute musique. En tant qu'interprète, il faut se poser toutes les questions, il faut tout essayer, il faut tout faire. Mais à la fin, la chose toujours la plus convaincante, c'est de trouver l'équilibre et l'harmonie entre la musique, l'instrument et soi-même. Et c'est pas en jouant comme un autre, ou jouer dans un style précis, ou un style qui est étranger, qui va rendre la prestation ou le message plus convaincant. Quand les gens disent, ou les élèves me demandent, est-ce que c'est le bon style? J'ai qu'une réponse, j'en sais rien. Le style, c'est quelque chose de superficiel pour moi. Ça, c'est le style. Le style, c'est le résultat d'un amalgame d'éléments beaucoup plus importants que style. Après, je pense qu'il y a certaines choses, par exemple dans les suites de Bach, qui sont particulières à cette musique, peu importe la façon de comment on l'approche. Quand on parle, par exemple, de style baroque, de style ancien, ou ça c'est trop romantique, c'est Bach, style romantique, ou je sais pas. Mais après, si on fait quelque chose qui est complètement étranger et qui n'est pas intégré et digéré et qui vient pas de plus profond de la personne, je suis pas certain que ça soit mieux. Je suis même plutôt certain que ça reste artificiel. Et que moi, qui n'a pas été éduqué, si vous voulez, dans le style aujourd'hui qu'on appelle le style ancien ou baroque, et pourtant je joue un violoncelle qui est beaucoup plus ancien que la plupart des instruments, et je joue sur les cordes boyaux aussi, boyaux filés, mais boyaux quand même. Et pourtant, je pense que des gens ne vont pas dire que, ah oui, ils jouent le style baroque, je pense pas. En même temps, pas sûr non plus que je joue le style romantique. C'est probablement plus romantique que les baroquistes. Mais je pense que j'ai été beaucoup influencé par Arne Bellesma, je le connais bien. J'ai lu tous ses bouquins, j'ai beaucoup parlé avec lui. Je joue pas comme lui. Et lui, je trouve qu'il joue pas comme les baroquistes non plus. Il joue comme lui. Et ce qui est drôle, c'est que les gens l'imitent en pensant qu'il joue style baroque. Mais Bellesma, il joue Bellesma. Sa façon de voir. Et je me souviens, on était tous les deux dans un jury de concours. Quelqu'un avait joué un concert de Haydn. Et le sujet de Trill, de commencer par la note supérieure ou pas. Et je lui dis, mais quelle est la règle? Parce que j'entends les gens font ça, mais je suis pas convaincu. Il me dit, et qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je pense, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut faire.
Ah. C'est une forme de liberté aussi.
Oui.
Mais pour ça,
il
faut.
Il n'y a pas plus libre que lui.
Thank you. difficile de rencontrer un violoncelliste et de ne pas évoquer les suites de Bach. Oui. Vous en avez sans doute parlé avec Anne Arbuspace, sans doute avec Starker, je crois,
oui,
aussi que vous en avez parlé avec Tortelli.
Oui.
Comment vous vous êtes fait votre chemin? Est-ce que c'est du quotidien? Est-ce que c'est une lecture vraiment de jeunesse qui ne vous a jamais quitté? Est-ce que c'est une œuvre qui est tellement grande qu'on ne sait pas comment la prendre?
Pour moi, comme pour beaucoup, les suites de Bach, ça reste le sommet et le but qu'on ne va jamais atteindre. Impossible. Ça reste pour moi la musique la plus difficile à jouer, surtout en public. Et je pense que les problèmes que j'ai toujours eus avec cette musique, c'est justement l'attente, le poids. Feuermann, peut-être le plus grand violoncelliste de tous les temps, il a toujours eu des problèmes en jouant des suites de Bach. Il y a juste un petit enregistrement qui a été fait lors d'une émission en 39 ou 40. Il y a deux, trois mouvements de Bach. Et on voit qu'il est complètement mal à l'aise avec cette musique. Il est tendu, c'est pas Feuermann, on n'entend pas Feuermann. Le gros problème, c'était la présence de Casals. Il savait qu'il ne voulait pas, ne pouvait pas jouer comme Casals, mais il ne trouvait pas sa façon de faire. Piatigorsky, il jouait un peu, mais très peu. De temps en temps, des suites de Bach. Il n'y a aucun enregistrement, il y a juste une vidéo où il joue deux mouvements. C'est plus Piatigorsky que Bach, mais c'est très bien. Il y a du charme et tout, j'adore. Pour les gens aujourd'hui, c'est pas Bach. Après, il y avait d'autres personnes qui sont venues, Starker, évidemment, Tortelier, Fournier, Gendron, d'autres. Il y a des enregistrements magnifiques. Mais je pense que Starker jouait les suites de Bach comme il jouait tout. Que ça, il disait à chaque fois, comment vous jouez les suites de Bach comme je joue tout le répertoire? Je pense qu'il faut faire comme ça. Gendron, il faisait comme ça, Fournier. Il n'y avait pas une grande différence quand Tortelier jouait Beethoven ou Brahms ou Bach. C'était Tortelier. Évidemment, on essaie de trouver ce qui est particulier à cette musique. On ne doit pas s'imposer, mais on est là quand même. Et ça doit être intégré. J'avais demandé à Tortelier, comment tu peux être aussi à l'aise dans la musique de Bach? Sa réponse. Bach était fils de Dieu, nous aussi. Moi, j'ai pris ça comme, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de cette musique. Il faut se donner à fond, et voilà. Jouer une suite de Bach en public depuis un certain temps maintenant. Moi, j'ai hâte de rejouer les suites de Bach parce que je sens que j'ai franchi un palier personnel. Est-ce que c'est meilleur? C'est probablement moins bien, j'en sais rien. Mais je sens que maintenant, je commence un peu à me sortir des barrières que je me suis faites dans cette musique. Parce que j'ai tout essayé et je vois tout. Et maintenant, j'ai juste envie de voir ce qui est vraiment à l'intérieur de moi. Parce que j'ai fait tout ça. Pendant un an, j'ai toutes les suites de Bach que j'avais jouées avec la main beaucoup plus haut. Pas au talon de l'archer, mais plus haut. Juste pour voir ce que ça donnait. Pas parce que j'étais persuadé que c'était la solution, mais j'avais envie d'apprendre ce que ça allait donner. j'ai entendu tous ces disques de Belzma et d'autres, et j'ai essayé de trouver. Évidemment, j'ai regardé sans cesse les différents manuscrits, j'ai lu, j'ai fait tout ça. Mais j'étais toujours conscient du fait que toute ma vie, quand j'entends quelque chose qui me convainc dans Bach, ça n'a jamais été une question de style. C'était juste la personne, l'instrument et la musique. Comme avec une œuvre de Beethoven, Brahms, Stockhausen, Schoenberg, ou tout ce que vous voulez. Et de ne pas avoir peur de, si je suis soi-même, je n'ai pas forcément peur dans Beethoven ou Brahms. Est-ce que c'est bien? C'est pas à moi de juger. Mais j'ai pas de peur de le faire. Et dans Bach, il y avait toujours cette peur. Et j'ai envie, avant que ça soit trop tard, juste de pouvoir me libérer complètement dans cette musique. Et j'espère avoir la possibilité de voir. Après, c'est une chose, chez moi, la scène c'est différent. C'est toujours une autre vérité.
Les grands entretiens de Gary Hoffmann, France Musique.
Ben, finalement, les suites de Bach, ça va rester quand même... Des sonates de Beethoven aussi. C'est différent, mais c'est aussi important pour nous, parce que c'est vrai que c'est vraiment les premières tentatives. Bon, y en avait d'autres avant, mais pas des compositeurs de cette importance. Mais il a vraiment créé, quelque part, à travers de ces cinq sonates, la forme de... pour voir ce qui est possible déjà au violoncelle et comment combiner les deux instruments et comment trouver une musique qui est propre aux sonorités, aux expressions de ces deux instruments, pas individuellement, mais ensemble. À la fin, il écrit une fugue. Au début, j'en suis sûr, ça aurait été impensable. Tu lui poses la question, alors, Herr Beethoven, ça serait bien de faire une fugue au violoncelle et piano, mais c'est... C'est impossible. On ne peut pas intégrer un violoncelle dans son... Et à la fin, c'est ce qu'il fait. Et après, c'est fini. C'est incroyable. Mais souvent, j'ai fait les cinq sonates dans un concert. Il n'y a pas de programme récital plus beau que ça. C'est incroyable parce que le public voit l'évolution et de la forme de violoncelle et de ses œuvres lui-même. Parce que jeunesse, milieu et vers la fin, c'est incroyable. Il y a une compréhension, par exemple, de la cinquième sonate... Quand les gens entendent ça avec les quatre derrière, il y a une compréhension de cette musique qui n'existe pas quand on met cette sonate dans un programme avec d'autres œuvres, mais pas avec d'autres sonates de Beethoven. Quand on arrive à la fin, cette fugue-là, c'est comme une jubilation, affirmation de quelque chose. Quand on entend les cinq sonates, mais évidemment, c'est une évidence.
Gary Hoffman, on vous entend parler de cet équilibre qui est subtil entre rigueur et liberté. Le jazz est une musique qui a complètement ça. Je crois que c'est une musique qui vous est proche aussi.
Oui, j'adore le jazz. J'ai toujours adoré. Je trouve qu'il y a un lien, même si sur le moment, on ne compose pas la musique. Mais on devrait être un peu dans cet état d'esprit. C'est ce que je dis très souvent aux élèves. Il faut le jouer comme si tu l'avais composé. Comme si ça vienne de toi, la musique elle-même. C'est vrai que c'est... Bah, eux, ils composent sur l'instant. C'est impressionnant. J'aimerais pouvoir arriver, mais... Je ne sais pas pourquoi, le jazz, ça m'a toujours... Je ne sais pas, ça me parle d'une manière... Ça m'arrive par des voix différentes. Bon, j'ai quelques idoles là aussi, mais... Pour moi, l'un des plus grands musiciens, peu importe le type de musique, c'est Coltrane. Je le dis souvent, John Coltrane. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un qui était à la tête du département de jazz à Bloomington. Il jouait avec tous les grands, Miles Davis, tous ces gens-là. Il connaissait Coltrane. Il jouait, et après, il avait un accident, il ne pouvait plus jouer le trombone, mais j'ai passé des heures avec lui. Lui donner des cours de violoncelle parce qu'il jouait du jazz au violoncelle. C'était pas vraiment son instrument, mais il pouvait plus jouer. Donc lui, il me donnait des cours de jazz et moi, les cours de violoncelle à lui. Et on passait des heures en parlant de mes idoles qu'il connaissait tous. Et c'était incroyable, cette expérience. Après, je sais pas pourquoi, je me suis accroché à ça. Juste comme ça. Mais c'est vrai que c'est une musique qui me parle aussi bien que la musique classique. Et j'ai plutôt tendance, quand j'écoute la musique, juste en général, je ne parle pas d'écouter la musique dans une répétition, mais juste comme ça, pour le plaisir, j'ai plutôt tendance à mettre du jazz que le classique. J'ai presque envie de reprendre la phrase de cette femme incroyable, Nina Simone, la pianiste. On lui a demandé ce qui était son rêve. Et elle a dit, jouer sans la peur. Et moi, je vais juste élaborer un petit peu sur cette phrase. Jouer les suites de Bach sans la peur. Juste de savoir ce que ça peut être de se sentir complètement libre au concert. J'aime bien sentir libre au concert. Ça n'arrive pas toujours, peut-être pas souvent. Mais les moments où ça arrive, c'est un sentiment incroyable. Cette espèce de liberté totale. Et là, en ce moment-là, j'ai l'impression que le temps s'arrête, que tout est en suspension, que c'est un peu en dehors de tout. J'aimerais bien sentir ça dans les suites de Bach. Après d'autres rêves.
De Toré.
Ah oui, la tour Machu. Je pensais pas qu'on allait aborder ce sujet. C'est toujours un sujet un peu délicat pour certains. J'adore la tauromachie. Je ne sais pas si je pouvais être torero. Mais justement, j'allais évoquer le sujet tout à l'heure quand on parlait de jazz. Ou quand on parle de liberté ou la sensation qu'on a sur scène. Pourquoi je suis fasciné par la tauromachie? Il y a un lien, il y a quelque chose. Évidemment, pour eux, pour les toreros, je ne parle pas des taureaux, mais je parle des toreros, ça devient facilement une question de vie et la mort. Par contre, pour nous, même si ce n'est pas ça, on a cette impression par moment. C'est vrai qu'il y avait des moments sur scène où j'avais l'impression de mourir, où je voulais mourir. Parce que ça se passait tellement mal que il vaudrait mieux mourir que subir cette souffrance. En même temps, il y a une part de plaisir en se mettant dans cette situation où on prend des risques. Ça peut faire mal, mais ça peut te donner la possibilité de toucher à autre chose que tu ne toucheras jamais dans ta vie quotidienne. Et cette fascination et cette quête, ce soif pour ces sentiments sont très forts et sont peut-être un peu dangereux, mais parce qu'on se sent en péril. C'est vrai que pour moi, jouer les 6-8 de Bach, il n'y a rien de plus difficile et de plus effrayant. Et quand je le fais, il n'y a pas de satisfaction musicale aussi grande, mais dans la souffrance. C'est bizarre, hein? Je pense que nous sommes des êtres bizarres quelque part. Mais voilà, la souffrance et le plaisir, ça existe côte à côte, c'est comme ça, hein?
À vous entendre conjuguer comme ça le plaisir et la souffrance, on ne peut pas s'empêcher de se demander si jamais vous avez un quelconque rapport à une religion.
Je suis pas quelqu'un de religieux. Je crois en quelque chose. Si on appelle ça Dieu, ok. Oui, je crois en Dieu. Mais je suis pas quelqu'un qui pratique une religion. Je suis de l'origine juive, mais j'ai jamais pratiqué. Mais quelque part, je sens que j'ai un lien avec ce que ça pouvait être si je m'y mettais. Je pense quand même, c'est facile de dire, mais la musique est une sorte de religion quand même. Ça sert dans la vie, dans les moments importants. Ça donne toujours une raison, toujours une possibilité de s'exprimer, toujours une possibilité de voir sa propre personne à travers de la musique. En tout cas, de ce que je ressens. Je trouve que le rapport que j'ai avec la musique en général depuis très jeune, à chaque fois si je voyais des tensions dans ma famille ou à la maison, le premier réflexe c'était de monter dans ma chambre et jouer le violoncelle pendant 2, 3 heures, juste comme ça, sans parler avec les gens. C'était pas autre chose, c'était à chaque fois ça. Donc, c'est peut-être pas une religion, mais c'était une façon de pouvoir m'exprimer, je dirais, de manière positive. Pas jeter des trucs, pas hurler, pas faire des crises, mais comprendre mieux.
Gary Hoffman ici, dans la deuxième méditation de Leonard Bernstein. C'est ainsi que se terminent ces grands entretiens avec le violoncelliste canadien Gary Hoffman. Réalisation Perrine Mingui, prise de son Sandrine Malon, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Réécoute et podcast de cette série sur francemusique.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.